Chapitre 85. C'est la veille du réveillon de Noël et une épaisse couche de neige scintille sur les champs. Yuna et Valeria sont assis l'un en face de l'autre dans la cuisine, en train de dîner. Quand la tempête s'est calmée, une paix presque solennelle s'est installée dans tout le pays. Les gens se sont rassemblés pour réparer les dégâts, s'occuper des blessés et des endeuillés. Les routes ont été déneigées, les voitures dégagées et l'électricité a été rétablie. En attendant Valeria, Yuna a tout préparé pour le long week-end. Il a acheté de la nourriture, du vin, de la bière et de l'aquavit, décoré la maison, coupé un sapin et emballé les cadeaux. Valeria est rentrée tard la veille au soir. Ils ont pris une douche ensemble et ont fait l'amour avant qu'elle ne s'endorme pour 13 heures d'affilée. Tout est prêt pour Noël lorsque la famille arrivera. Lumi, Laurent, la sœur de Valeria, son mari et leurs 3 filles. Ce matin, Yuna a trouvé des petites palourdes et a préparé des spaghettis à l'évongolé. Un repas léger en prévision des abus à venir. Pendant qu'ils dînent, Valeria raconte son voyage, le chagrin qui s'est immiscé dans le quotidien. Sa mère qui a placé une chaise près de la tombe et s'y assied chaque jour, prodiguant à son mari des conseils et des avertissements pour l'éternité. Ils débarrassent leurs assiettes, sortent la boîte de pièces en chocolat et se versent un verre de vin. Les yeux de Valeria ont la couleur de l'ambre, cerclés d'une nuance bronze. Elle a maigri pendant son voyage, mais elle affirme que c'est lui qui a perdu du poids. Sur le rebord de la fenêtre est posée la seule décoration que Yuna a gardée de son enfance. Elle appartenait à son père. Un décor de paysage enneigé avec une maisonnette rouge aux fenêtres en cellophane jaune. Une bougie chauffe-plat brûle derrière la petite maison et son reflet éclaire la vitre d'une lumière chaleureuse. Valeria pose son verre, regarde Yuna dans les yeux et lui demande ce qu'il a fait pendant qu'elle était au Brésil.
Rien de particulier, répond-il.
Tu as mangé 2 pièces en chocolat, remarque-t-elle. J'ai gardé la 3e pour maintenant. Ils en prennent chacun un morceau en souriant et se regardent pendant que les saveurs se répandent dans leur bouche. Yuna se penche vers elle et commence à raconter la chasse complexe qui a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'il s'est avéré que le tueur en série était le célèbre écrivain Bernard Sand. Grâce aux documents qu'Agnetta a trouvé dans le compartiment de l'armoire ancienne, Yuna a pu reconstituer le parcours de Bernard, du petit garçon maltraité au tueur compulsif. Bernard vivait avec ses parents dans une ferme près de Gislaved. Ils y géraient un atelier de réparation de voitures et de tracteurs. Bernard souffrait de somnambulisme sévère comme son fils.
« Le somnambulisme est héréditaire ?» demande Valeria.
« Oui. Plutôt.
Son père avait conçu un système rudimentaire mais efficace pour éviter les accidents. La nuit, Bernard était relié à une longe qui lui permettait d'aller aux toilettes mais l'empêchait d'accéder à la cour ou à la cuisinière.
« Waouh !» souffle Valeria.
Quand le père a quitté la famille pour une autre femme, la mère a sombré dans une grave dépression qui a rapidement évolué vers une psychose schizo-affective. Un soir, elle a pris une hache et a gravé une flèche sur la poitrine de Bernard. Puis, elle l'a envoyé se coucher en lui répétant que tout était de la faute de son père. Ensuite, elle est sortie. Le garçon était attaché à la longe, mais regardé par la fenêtre. La mère a retourné la hache vers elle, a placé la lame contre son front avant de courir vers un mur en béton et de se fendre le crâne.
J'ai la nausée,
murmure Valeria en portant une main à sa bouche.
Le père avait quitté le pays, alors Bernard a été pris en charge par les services sociaux et a grandi de foyer en foyer. C'est son traumatisme originel, explique Yuna. Mais ensuite, il a semblé s'en sortir. Bon élève, il a obtenu une bourse pour étudier à l'université de Stockholm, et à seulement 26 ans, il a obtenu un doctorat en histoire des idées. Par la suite, il est devenu professeur, et 3 ans plus tard, il a commencé à écrire des romans sentimentaux qui ont connu un succès considérable.
Il était romantique ?
Oui, il l'était. Ce qui constitue une pièce importante du puzzle, répond Yuna. Il a rencontré Claire, ils se sont mariés et ont eu un fils, Hugo.
Le second traumatisme de Bernard est survenu lorsqu'il a découvert que sa femme l'avait trompé pendant que Hugo faisait une crise de somnambulisme qui l'avait conduit à chuter d'une fenêtre.
Elle aurait dû entendre l'alarme. Comment a-t-elle pu ne pas réagir ?
Il l'a confrontée, mais elle a tout nié, explique Yuna. Deux semaines plus tard, lorsque Bernard a fait semblant de partir en voyage, elle est tombée dans le piège. Il a fabriqué un poncho avec un rideau de douche, a emporté une hache, et quand il a surpris sa femme dans la chambre, il a commencé à démembrer son amant vivant.
Claire a fui par les escaliers, est sortie de la maison et a traversé la pelouse vers le portail. Bernard l'a rattrapée, l'a renversée, puis il l'a décapitée. Ensuite, il a enveloppé son corps dans le rideau et l'a enterré sous le plancher du chalet d'été au bord du lac.
Bernard a fait croire à Hugo que Claire les avait abandonnés et était retournée au Canada, raconte Yuna.
Il a ensuite écrit des lettres à Hugo en se faisant passer pour Claire et a développé un récit autour de la drogue pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas se voir. Des années après ce double meurtre, Bernard a été témoin d'un adultère à la clinique du sommeil. Une femme trompait son mari avec un autre patient. Ça a été l'étincelle. Il a pris une hache, s'est rendu à la maison près du lac Mélaren, et caché dans les bois, il a attendu le bon moment. Lorsqu'il l'a vu sortir, prendre une échelle et l'installer sous un pommier, il s'est avancé et l'a frappé à la tête avec le dos de la hache. Elle s'est effondrée en perdant sa perruque blonde et elle est morte sur la pelouse d'une hémorragie intracrânienne.
C'est là que ça a commencé, dit Valéria.
Oui.
Lors de ce troisième meurtre, quelque chose s'est allumé en lui, comme une flamme qui apaisait ses traumatismes. Mais elle devait sans cesse être nourrie. Avec la perruque blonde, il a redonné vie à sa mère, mais cette fois, il a dirigé toute sa colère contre les personnes qui négligent leur enfant.
Bernard ne se prenait pas pour sa mère, mais la perruque lui donnait une forme de protection, de force, comme un masque.
Après ce meurtre, sa rage s'est nourrie des confidences des lecteurs de sa rubrique sentimentale dans Expressen. Des gens qui demandaient des conseils, racontaient leur vie compliquée, leurs dilemmes moraux et leur désir de changement. Comme cette femme jalouse, l'épouse de Nils Nordlund. Elle lui avait écrit pour demander quoi faire face aux infidélités récurrentes de son mari lors de ses déplacements professionnels. Bernard étudiait ses victimes, planifiait minutieusement ses meurtres et tendait des pièges. Il est devenu de plus en plus actif, de plus en plus violent. C'est comme si les châtiments n'étaient jamais assez sévères. Son vide intérieur ne pouvait pas être comblé. Plus on alimente le feu, plus il a faim. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il volait ses victimes. Ça faisait partie du châtiment. Elles devaient payer un tribut pour ce qu'elles avaient fait.
Yuna sautait, pensant à toutes les raisons susceptibles de motiver les tueurs en série. Mais l'ombre qu'il projette reste toujours la même. Une solitude stérile, une absence d'empathie et une énergie sombre.
Personne ne peut créer seul la vie, mais certains s'enivrent de la mort, murmure-t-il.
Un silence s'installe. Yuna et Valéria boivent du vin tout en regardant la neige au dehors, éclairée par la lumière de la cuisine et derrière l'obscurité massive.
Continue, dit-elle.
Tu veux vraiment ? Demande-t-il en plongeant ses yeux dans les siens.
Je ne pourrai pas dormir sinon, répond-elle avec un large sourire.
Yuna parle brièvement de la clinique du sommeil et du rôle particulier de Lars Grint dans l'enquête, du fait qu'il a été un moment le principal suspect. Mais le docteur Grint ignorait que Bernard utilisait sa maison et sa vieille Opel. Il s'est suicidé lorsqu'il a compris que ses méthodes peu éthiques allaient être révélées.
Ses recherches portaient sur le comportement des somnambules, leur rapport aux règles et aux interdictions en fonction des traitements.
C'est étrange à quel point Bernard a réussi à se maintenir dans l'ombre, dit Yuna. Personne n'a fait le lien entre les meurtres. Les deux premiers, Claire et son amant, sont passés pour de simples disparitions. Le troisième, comme un accident. Le quatrième, dont je n'ai pas encore parlé, a eu lieu dans le sud de la Suède, et un innocent a été accusé. L'enquête n'a commencé qu'après le meurtre dans la caravane.
Quand Hugo a été placé en détention.
Exactement. Yuna raconte que la victime avait donné rendez-vous à deux prostituées dans une caravane au camping de Bredeng. On peut sans doute questionner la clairvoyance de la victime, dit Yuna avec un sourire en coin. Il avait une belle épouse et un fils de 4 ans, et pourtant, il a organisé un rendez-vous avec une femme connue pour voler et agresser ses clients, et un tueur en série actif.
Vers 23 heures, une fois Agnetta endormie, Bernard est allé chercher une hache dans le silo de Grilby, a pris la vieille voiture de Lars Grint, l'a garée devant le camping, puis il est rentré chez lui pour se changer. Il est revenu vêtu d'un manteau épais et d'une perruque blonde, est entré dans la caravane et a frappé l'homme avec le plat de sa hache. Submergé par la rage, il lui a coupé une jambe, l'a décapité et a poursuivi le démembrement. Il ignorait que l'autre femme s'était approchée et avait fui en entendant les cris, et que son propre fils l'avait suivi pendant sa crise de somnambulisme et avait assisté au meurtre. Une fois le dépeçage terminé, Bernard est retourné à la voiture de Grint, a mis ses vêtements ensanglantés dans un sac poubelle, a enfilé une combinaison et s'est rendu au silo. Là, il a nettoyé la voiture, brûlé les sacs dans un incinérateur et rangé ses trophées dans un local souterrain. Puis, après s'être lavé à la Javel, il s'est changé et est rentré chez lui avec sa voiture habituelle.
Après le deuxième meurtre, du moins celui que nous connaissions, j'ai demandé à Saga ce qu'elle en pensait, raconte Yuna.
Comment va-t-elle?
Beaucoup mieux. Mon supérieur a accepté qu'elle soit progressivement réintégrée.
Je suis contente de l'apprendre, dit Valérie en souriant.
J'ai insisté pour qu'elle soit ma coéquipière.
Et il a répondu quoi?
Que ça ressemblait à un cauchemar.
D'accord, rigole Valéria.
Mais il n'a pas dit non.
Yuna raconte que quand il a décrit les deux premiers meurtres à Saga, elle a aussitôt répondu qu'il lui rappelait les châtiments du Moyen-Âge.
Ce qu'on appelait des châtiments qualifiés, quand la mort seule ne suffisait pas et qu'on la précédait de torture.
Toujours aussi brillante, dit Valéria.
Elle avait raison, et ça m'a mené à la vraie question.
Celle de savoir pourquoi les victimes étaient punies?
Ouais. C'était la question à résoudre pour comprendre le meurtrier, dit Yuna. On voyait les châtiments, mais le motif n'existait que dans la tête du tueur.
Prostitution? Adultère?
Oui. Une forme de luxure égoïste qui impacte un enfant déjà vulnérable.
À aucun moment il ne s'est dit que la peine de mort était un peu excessive.
Il s'identifiait aux enfants et punissait ses victimes pour toute la douleur qu'il avait ressentie, tout ce qui avait fait de lui ce qu'il était.
Yuna boit une gorgée de vin, regarde la petite maison illuminée sur le rebord de la fenêtre et commence à parler de Pontus Bandling.
Sa sœur avait écrit à la chronique de Bernard pour exposer son dilemme. Elle pensait que son frère trompait régulièrement sa femme avec une certaine Kimberly. Ça avait commencé quelques années après la maladie de leur fille. Elle se sentait loyale envers son frère, mais ne pouvait accepter son comportement et avait donc demandé conseil. Mais la sœur n'avait pas compris que Kimberly n'existait pas vraiment, qu'elle faisait partie d'un jeu sexuel entre les époux.
« Oh, mon Dieu !» soupire Valéria.
Yuna parle ensuite du livre que Bernard et Agnetta avaient commencé à écrire ensemble. J'avais vraiment l'impression qu'ils essayaient de m'aider à arrêter le tueur.
C'est étrange, non?
Pour Bernard, c'était probablement un moyen de garder un œil sur le travail de la police afin d'avoir toujours un coup d'avance, répond Yuna, mais au final, c'est justement cette collaboration qui l'a trahi.
Comment ça ?
Je ne pouvais pas me détacher de l'idée que Hugo avait marché en dormant, les yeux ouverts, apparemment sans souvenir conscient, juste des fragments de cauchemar. Mais je me suis dit que la hache, le sang, la caravane n'étaient pas des petits détails. Ils devaient être gravés quelque part dans sa mémoire épisodique.
Yuna décrit comment Eric a progressivement effacé le cauchemar pour faire émerger la réalité.
Dans son sommeil, Hugo était poursuivi par l'homme squelette pendant qu'il suivait sa mère jusqu'au camping. Et dès la première séance, on a eu un aperçu du meurtrier. Lors de la deuxième séance, Hugo a décrit ce qu'il avait vu par la fenêtre arrière de la caravane, mais ses descriptions ne correspondaient pas au constat du légiste. En proie à une forte angoisse, Hugo a raconté que la victime avait été amputée des deux pieds avant d'être tuée d'un coup au visage. Ce n'est que lors de la troisième séance qu'Eric a réussi à lui faire raconter précisément le meurtre dans la caravane.
Yuna raconte que dans sa voiture, au milieu de la tempête de neige, il a soudain réalisé que Hugo avait été témoin de deux meurtres, dont l'un dans sa propre maison.
Lors de la deuxième séance, Hugo regardait par une fenêtre à croisillon. Il a mentionné du parquet, des baguettes en laiton et une lampe avec un abat-jour à motif peau de serpent. Enfin, lors d'une crise de somnambulisme, Hugo avait vu l'amant de sa mère se faire tuer par son père recouvert d'un rideau de douche à motif de crâne et d'ossement. Il avait suivi sa mère à travers la maison jusqu'au jardin, mais l'avait perdue dans l'obscurité.
Ce traumatisme inconscient s'était ensuite infiltré dans ses cauchemars catastrophistes, avec l'image de l'homme squelette. Ses rêves le programmaient à suivre sans cesse sa mère dans son sommeil. Dans le cauchemar de la nuit du meurtre, Hugo a suivi sa mère jusqu'à la caravane pour la sauver de l'homme squelette. Mais en réalité, il suivait son père coiffé d'une perruque blonde.
Cette nuit-là, Bernard est devenu à la fois sa mère et l'homme squelette.
Je comprends.
Yuna fait tournoyer le vin dans son verre et décrit le mode opératoire de Bernard. En pleine frénésie de démembrement, il était parfois poussé à graver une flèche, symbole de son traumatisme d'enfance, sur le corps de ses victimes. Parfois, ce n'était qu'une entaille avant que d'autres impulsions ne reprennent le dessus et que les mutilations ne continuent.
Mais qu'est-ce que représentait cette flèche pour lui ?
Demande Valéria.
Elle faisait partie de lui. Il la portait sur son propre corps. Elle apparaît sur des centaines de ses dessins d'enfants. Et je pense qu'elle signifiait en quelque sorte « Ici et maintenant, ton destin est scellé. »
Et la flèche pointe toujours vers le bas, vers la terre, les enfers, Hadès, dit Valéria.
Loin du ciel, murmure Yuna.